Voici une question qu'on entend très souvent de nos jours. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? La parole de Dieu va nous donner une réponse des plus encourageantes aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je pense qu'on a tous des moments de souffrance, de découragement et même de désespoir dans notre vie. Et on ne peut sûrement pas trouver de réconfort aussi grand et aussi merveilleux que dans la parole de Dieu. Mes amis, si vous êtes souffrants, si vous êtes découragés en ce moment, cette émission est spécialement pour vous. Voici les questions qu'on va poser aux Saintes Écritures. Que signifie l'expression « avoir soif du Dieu vivant » Est-ce que le croyant doit s'attendre au mépris du monde? Comment est-ce que le croyant peut combattre le découragement? Où peut-il trouver du secours dans les temps de désespoir? Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Comment pouvons-nous demeurer dans la présence de Dieu? Est-ce que Dieu attache de l'importance aux siens? Qu'est-ce que Dieu pense de nous, les Canadiens? Restez là, le grand livre de Dieu a une réponse claire pour chacune de nos questions et il va nous enseigner par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, remercions Dieu pour sa parole et demandons-lui de nous aider à bien la comprendre. Prions. Oui, merci, Seigneur, pour tous ces écrivains que tu as inspirés, pour que ta parole soit mise en écrit pour nous, pour qu'on connaisse ta volonté. Merci pour cette parole merveilleuse qui nous console chaque jour, qui nous encourage, qui nous aide à grandir. Enseigne-nous aujourd'hui, Seigneur. Aide-nous à bien comprendre tout ce que tu vas nous dire. Et merci, Jésus, de nous donner accès au trône de la grâce. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Les Juifs avaient divisé le livre des psaumes en 5 parties, chaque partie correspondant à un livre du Pentateuque. Le Pentateuque est formé des 5 premiers livres de la Bible, la Genèse, l'Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Aujourd'hui, en étudiant le psaume 42, nous entrons dans la deuxième partie du livre des psaumes, la partie qui correspond à l'Exode. Cette section comprend les psaumes 42 à 72. Dans le livre d'Exode, nous voyons que les Hébreux sont écrasés par les Égyptiens qui les ont réduits à un état d'esclavage. Dieu suscite Moïse pour libérer son peuple de la main des Égyptiens. Dans cette section, nous voyons le peuple de Dieu qui éprouve le même type de souffrance qu'en Égypte. Ces livres ont toujours 3 niveaux d'application possibles. Les expériences personnelles de David, la persécution du reste d'Israël pendant la Grande Tribulation et la persécution des croyants contemporains. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous traduisons et adaptons les textes, insiste sur l'aspect prophétique de ces psaumes qui décrivent l'état des choses pendant la Grande Tribulation. Tous les croyants de l'histoire ont été consolés par le même Dieu immuable qui demeure éternellement. Ce Dieu a consolé son peuple en Égypte. Il a consolé Israël au cours de l'histoire de la nation. Il a consolé son Église lors des périodes de persécution. Il est notre consolation aujourd'hui. Et il le sera toujours fidèlement lors des événements à venir. C'est ce Dieu que nous louerons et adorerons en examinant les souffrances de son peuple et la consolation qu'il lui apporte. Entre les sections Genèse et Exode du livre des psaumes, nous remarquons un contraste intéressant dans les noms de Dieu. La section de la Genèse utilise le nom Yahweh 272 fois et le nom Elohim 15 fois. Dans la section que nous entreprenons aujourd'hui, le nom Elohim est utilisé 164 fois et le nom Yahweh seulement 30 fois. Que signifie cette différence? Bien, les deux noms ont un sens différent. Elohim met l'accent sur la puissance divine. Le nom Yahweh souligne le fait que Dieu est le Rédempteur d'Israël et que c'est lui qui garde la nation. Nous verrons aussi que David n'a pas écrit autant de psaumes dans cette section que dans celle que nous venons de terminer. Il en a écrit 19, alors que 7 sont attribués au fils de Corée de la tribu de Lévi. Tous ces psaumes peuvent être considérés comme une image prophétique de ce que vivra Israël pendant les derniers jours. Lorsque le psalmiste parle de la nation d'Israël, il ne réfère pas toujours à la nation entière, car ce n'est pas toute la nation dont il parle. Nous voyons aussi cette distinction avec le mot « église ». Il faut faire une distinction entre l'Église organisée, qui comprend tous les membres des différentes religions chrétiennes, et l'Église invisible, qui comprend les véritables croyants qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur. L'Église invisible, la véritable Église, est formée des personnes qui ont une relation personnelle avec Dieu. Le reste d'Israël ne comprend pas tous les Israélites, tout comme l'Église invisible ne comprend pas tous ceux qui sont inscrits dans les registres des églises de différentes religions. Dans la section Exode des psaumes, c'est du reste d'Israël que nous parlons, de ceux qui craignent Dieu. Le titre du psaume 42 dit « Au chef des chantres, cantique des fils de Corée ». Le mot hébreu traduit « cantique » est « machil ». Ce mot désigne un psaume didactique. Vous rappelez-vous de Corée? C'est lui qui organisa une rébellion contre Moïse, alors qu'Israël errait dans le désert. Dieu le fit périr, car il se révolta contre Moïse et Aaron, mais il épargna ses fils. Dans le livre des Nombres, chapitre 26, versets 9 à 11, nous pouvons lire clairement que les fils de Corée n'ont pas été condamnés lorsque leur père fut jugé par Dieu. Ils ont continué à servir Dieu, et ce sont les descendants de Corée qui ont écrit les premiers psaumes de la section correspondant à l'Exode. Chers amis, débutons notre lecture. Le psaume 42, les versets 1 à 3. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Chers amis, votre âme a-t-elle soif du Dieu vivant? Celui qui a goûté la joie et la douceur d'une relation intime avec Dieu soupire pour la retrouver lorsque celle-ci est entravée. Lorsque nous sommes persécutés ou que nous traversons des épreuves, nous soupirons aussi pour la présence de Dieu. Nous sommes heureux et dans la joie lorsque nous sommes en relation intime avec Dieu. Et si nous traversons une épreuve, il est notre consolation. Mais si cette communion est entravée, il est de loin préférable soupirer pour la retrouver que de jouir des plaisirs du monde. Votre âme a-t-elle soif du Dieu vivant? Certains pensent plaire à Dieu en faisant une bonne vie et en suivant les 10 commandements. Mes amis, l'homme est en rébellion contre Dieu. Les commandements ne font qu'exposer le fait qu'il est pécheur. L'homme naturel ne désire pas connaître Dieu. Il faut que chaque individu naisse de nouveau. Nous devons être adoptés dans la famille de Dieu avant de pouvoir dire « comme une biche soupire après des courants d'eau ». Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Les textes sont explicites et clairs dans le Nouveau Testament. Il faut recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel et par le fait même de devenir un enfant de Dieu. Le verset 4 du psaume 42. « Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu ?» Le croyant doit s'attendre au mépris du monde. Satan a écrasé le peuple de Dieu en Égypte. Il s'est toujours opposé à celui-ci lorsqu'il fut établi dans la terre promise. Le diable persécute toujours les serviteurs de Dieu, surtout lorsqu'ils sont fidèles et zélés. Il le fera encore dans l'avenir. Ses pions diront toujours « Où est ton Dieu ?» Verset 5. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Combattons le découragement en pensant aux bienfaits de Dieu. L'auteur ou les auteurs de ce psaume avaient connu la joie d'une relation avec le Seigneur alors qu'ils le louaient et l'adoraient au temple. Verset 6. Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. L'auteur se gronde lui-même parce qu'il se laisse aller à la déprime et au découragement. Il s'exhorte à faire confiance à Dieu. De temps à autre, il faut se parler, chers amis. Parlons à notre âme et disons-lui, « Confie-toi en l'Éternel ». Versets 7 et 8. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Jonas a utilisé le langage de ce verset en priant. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots passaient sur moi. Citation de Jonas, chapitre 2, verset 4. Jonas crut mourir, mais Dieu le secourut. Dieu libérera les siens, même ceux de la grande tribulation, la tribulation des derniers temps. Versets 9 et 10. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, « Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Vous êtes-vous déjà senti ainsi? Beaucoup d'entre nous avons fait cette expérience. » Verset 11. « Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, « Où est ton Dieu? » Si une personne aime Dieu, elle est attristée lorsque quelqu'un outrage ou rejette son Créateur. Elle ne peut demeurer indifférente à cela. Verset 12. Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Ce n'est qu'en Dieu que nous trouvons du secours. Dans un temps de désespoir, le psalmiste se tourne vers Dieu. C'est ce qu'il faut faire, chers amis. Lorsque les tribulations viendront, il n'y aura pas de secours, ni de l'est, ni du sud, ni de l'ouest, ni du nord. Ce n'est qu'en Dieu que nous trouvons du secours. Cela sera encore plus vrai pendant la grande tribulation, alors que le monde entier s'opposera à Dieu. Maintenant, nous passons au psaume 43. Il est la suite idéale au psaume 42, puisque son auteur prie afin que Dieu le délivre de ses tribulations. Chers amis, débutons notre lecture, le psaume 43, verset 1er. « Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. » Voilà une prière que fera le peuple de Dieu pendant la grande tribulation. Les attaques de Satan sur l'œuvre de Dieu existent depuis l'appel d'Abraham. Même aujourd'hui, les églises et les organisations qui servent Dieu fidèlement sont sujettes à des attaques de Satan. Souvent, ses serviteurs sortent des rangs de l'organisation. Ces personnes cherchent leur propre gloire et non celle de Dieu. Verset 2. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Bonne question, chers amis. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Le psaume 119, les versets 67, 71 ainsi que 75. Dieu désire toujours notre bien, même son châtiment a pour but de nous édifier et non de nous détruire. Quelle est votre attitude lorsque Dieu permet que vous passiez par des épreuves et des injustices? J'ai connu un homme qui n'a jamais pardonné une injustice qu'un incroyant lui avait faite. Pendant des années, il a dépensé toute son énergie à chercher à se faire justice. Son cœur s'est rempli d'amertume. Cela lui a coûté son entreprise, sa famille et sa santé. Lorsque Dieu permet que nous ayons des épreuves, c'est pour nous rapprocher de lui. Ce fut le cas de Job, l'homme le plus intègre sur terre. Dieu l'a éprouvé parce que son orgueil le séparait de lui. Revenons au psaume 43, lisons le verset 3. « Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. » Envoie ta lumière et ta fidélité. Que demande le psalmiste exactement? Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean chapitre 8, verset 12. Il a dit aussi, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14, verset 6. Si les auditeurs de Jésus ont compris qu'il est la lumière et la vérité, alors ils ont compris qu'il était le Messie attendu. Qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Le psalmiste désire ardemment retourner en présence de Dieu. Pour Israël, c'était à Jérusalem. Pour nous, c'est la croix. Il faut passer par le sacrifice de Jésus pour arriver en la présence de Dieu. Verset 4. J'irai vers l'autel de Dieu. De Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe. Ô Dieu, mon Dieu. Désirez-vous connaître la présence de Dieu? Le psalmiste désirait ardemment aller en présence de Dieu et goûter la joie d'une communion intime, d'une relation intime avec lui. Souvent, au moment de notre salut, nous avons une joie et un zèle, mais après un temps, tout s'estompe. Nous luttons contre le péché dans notre vie, et nous désirons retrouver la joie initiale de notre salut. Nous sommes comme une biche qui soupire après les courants d'eau, comme nous avons vu au psaume 42. Bien, il est possible de retrouver notre joie et notre allégresse dans le Seigneur. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Citation du prophète Jérémie, chapitre 29, verset 13. La priorité de votre vie devrait être de retrouver cette intimité avec Dieu. Sacrifiez autre chose afin d'avoir du temps pour la prière et la méditation. Demandez à Dieu de vous donner un cœur qui l'aime. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Le psaume 37, verset 4. Que cela puisse devenir la devise de votre vie. Si vous faites de Dieu votre délice, il vous donnera ce que vous désirez, c'est-à-dire, il se révélera à vous. Jeune homme, ce n'est pas une promesse de vous donner l'élu de votre cœur. Jeune dame, ce n'est pas une promesse de vous donner ce garçon qui semble bien. C'est la présence de Dieu même qu'il faut rechercher. Voilà la source de toute bénédiction. Cependant, il n'y a aucune relation intime possible avec Dieu si vous ne recevez premièrement son Fils Jésus-Christ comme votre Sauveur. Vos péchés vous séparent de Dieu, mais Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean chapitre 1, verset 29. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix efface les péchés de tous ceux qui viennent à lui. Il vous adopte dans sa famille. Vous devenez son enfant. Vous devenez une nouvelle créature. Vous devenez l'enfant de Dieu. Alors, il est possible de goûter la joie d'une relation privilégiée avec Dieu. Possédez-vous cette relation? Désirez-vous cette relation? Verset 5. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. L'espoir du croyant vaut mieux que les biens matériels. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 13. Oui, nous attendons le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Il revient pour apporter la délivrance. Maintenant, nous introduisons le psaume 44, dont nous terminerons l'étude à la prochaine émission. C'est un psaume didactique écrit par les fils de Corée. Quoiqu'il soit difficile de déterminer exactement les événements historiques qui ont occasionné ce psaume, nous n'avons pas de difficulté avec son aspect prophétique. C'est ce qui prouvera le reste d'Israël juste avant le retour du Seigneur Jésus. Débutons notre lecture. Le psaume 44, versets 1 et 2. Au chef des chantres, des fils de Corée, cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. Dieu attache de l'importance aux siens. Gédéon a aussi prié de cette façon. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel, ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. » Le livre des Juges, chapitre 6, verset 13. Lorsque nous vivons des temps difficiles, il est bon de se rappeler le secours que Dieu a accordé et qu'il accorde à son peuple au cours de l'histoire. Dieu est intervenu dans l'histoire autrefois et il le fera encore. Lorsque Josué a conquis la terre promise, Dieu a arrêté le soleil. Josué chapitre 10 versets 12 et 13. Ce fait historique démontre l'importance que Dieu attache à son peuple. Dieu est prêt à intervenir. Sommes-nous prêts à l'implorer? Verset 3. De ta main tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les étendre. Que pense Dieu de notre pays? Ceci réfère à la conquête de la terre promise sous Moïse et Josué. Dieu accorda le pays de Canaan à son peuple parce que le péché des Cananéens avait atteint son comble. Il serait peut-être bon de nous demander ce que Dieu pense de nous aujourd'hui. Nous bafouons Dieu et ses lois. Partout, nous ne voyons que corruption et immoralité. Verset 4. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Dieu a véritablement combattu avec son peuple lorsqu'il a conquis la terre promise. Dieu leur a littéralement donné le pays. Les Israélites ne l'ont pas conquis par leur force. Lorsque Dieu a détourné sa face d'eux, ils n'ont pu prendre la petite ville d'Aï. Ils ont premièrement dû punir et ôter le péché parmi eux. Dieu a empêché Balaam de les maudire. Il a séparé les eaux du Jourdain pour qu'il entre dans le pays. Il a renversé les murs de Jéricho et il a même arrêté le soleil afin que Josué puisse terminer un combat. Parce que tu les aimais. Voilà la réponse. L'amour de Dieu envers les siens. Les Israélites étaient aussi pécheurs que nous. Dieu les a sauvés et établis parce qu'il les aimait. Dieu veut toujours le bien des siens. C'est pourquoi, dans les tribulations, il est toujours là. Pour son peuple, il nous a aimés le premier. Maintenant que nous lui appartenons, il ne nous laissera jamais tomber. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Citation de l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 31 et 32, concernant le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire son Église. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, en lisant le psaume 44, verset 4, au psaume 45, verset 7.
Oh, merci beaucoup, Régent. Mes amis, permettez-moi de vous répéter quelque chose que Régent a dit au cours du bon enseignement qu'on vient de recevoir. Il a dit que nous sommes heureux et dans la joie que lorsque nous sommes en relation intime avec Dieu. Et si nous traversons une épreuve, il est notre consolation. mais si cette communion est entravée, il est de loin préférable de la retrouver que de jouir des plaisirs du monde. Mes amis, ce que je viens de dire s'applique aux croyants, mais je pense aussi qu'il y a un grand message pour tous ceux qui n'ont pas encore trouvé le chemin qui mène à Dieu. Avant de trouver ce chemin, j'essayais de trouver le bonheur dans les plaisirs du monde. J'ai essayé par le succès et j'ai réussi à avoir du succès. J'avais une carrière artistique qui allait pas mal bien. J'ai essayé en me payant aussi des repas et des bons vins dans les meilleurs restaurants. J'ai essayé en voyageant. J'ai visité presque tout le Québec et je suis allé dans d'autres provinces du Canada. J'ai voyagé en Jamaïque aussi, en Guadeloupe, dans plusieurs États américains. Je suis allé au Japon, en Allemagne, à Chypre, en Israël, en Égypte. J'ai cherché le bonheur dans des relations amoureuses et je l'ai cherché même dans la drogue. Et j'ai vu, comme Salomon, que tout sur cette terre n'est que vanité et poursuite du vent. Mais enfin, j'ai trouvé le vrai bonheur quand j'ai retrouvé ma communion avec mon Créateur, avec Dieu lui-même. Et pour retrouver cette communion, cette relation intime avec Dieu, j'ai un jour avoué que j'étais une pécheresse perdue, incapable de me sauver moi-même. J'ai appris que c'était pour moi personnellement que Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, était venu sur cette terre afin de souffrir et de mourir sur une croix, dans le but de payer en entier la dette que j'avais envers Dieu à cause du péché. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Aujourd'hui, je peux dire que Jésus est l'agneau de Dieu qui a ôté mon péché. Gloire à Dieu et merci Seigneur. Quand j'ai réalisé que j'étais une pécheresse perdue et que Jésus avait payé ma dette à la croix, j'ai demandé pardon à Dieu pour ma vie de péché et j'ai demandé à Jésus de me sauver, de me donner la vie éternelle. Bien sûr, je me suis repenti et j'ai demandé à Dieu de m'aider à m'éloigner du péché et de vivre par lui et pour lui. Et il l'a fait. Dès que j'ai reçu le don gratuit de la vie éternelle, je savais que je ne vivrais plus jamais de la même manière. Et l'Esprit de Dieu, qui maintenant habitait en moi, me donnait déjà la force de quitter mon amant, de ne plus toucher à la drogue, de ne plus faire d'abus d'alcool, de ne plus mentir, mais de vivre en communion avec ce Dieu merveilleux, ce Dieu trois fois saint qui a le péché en horreur. Mon ami, c'est pour toi aussi que Jésus a souffert de la part des pécheurs, qu'il a été cloué sur cette croix. N'aimerais-tu pas faire ce que j'ai fait, il y a environ 28 ans? Repens-toi, change de direction à l'égard du péché. En ce moment même, demande à Jésus de te sauver, et il va t'accueillir les bras grands ouverts.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Réjean. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors, c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca. Ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.